Il est 8h48, la revue de presse.
France Inter, le 7-9.
Claude Ascolovitch, on parle de colère ce matin.
Et on lit dans les journaux des cris de douleur et de rage qui se font écho, car ce sont les mêmes mots que l'on trouve chez des Français tellement éloignés d'apparence. Est-ce que c'est normal que ça se passe toujours à Villiers-le-Bel? Est-ce que c'est normal que ça se passe toujours en banlieue? Pourquoi personne n'est jamais là pour nous? On est humain, non? Ce sont les mots dans Street Press, indispensable journal en ligne de Diane Eba, dont le petit frère Ibrahima est mort percuté par un poteau métallique en tombant de moto lors d'une intervention policière dimanche à Villiers-le-Bel, et hier, dans son quartier de la Cerisaie, on lui rendait hommage. Je me refuse à croire que nous sommes considérés comme des sous-hommes. Ça, ce sont, sur le site de la Dépêche du Midi, les mots de Pascal Béteille, président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, dont un voisin paysan s'est suicidé. Et aujourd'hui, à la tête de ses troupes, il emmène un jour de colère paysanne que l'Occitanie appréhende, car les paysans veulent bloquer les villes. Ce sont les unes de la Dépêche, du Petit Bleu, de Sud-Ouest. Le maire d'Agen, Jean-Dionis du Séjour, demande aux paysans de respecter sa ville, mais eux ressassent le mépris qu'ils ressentent. Les suicides de policiers, dit Béteille. On sait les compter. La France, dans ses journaux, est une mosaïque de souffrances. Des employés d'EHPAD témoignent dans les DNA. L'Est éclair fait ça une sur les postiers qui sont dans l'aube épuisés. Et en septembre, une factrice a voulu se tuer. Dans la prison de Metzkeleux, ce sont des détenus qui se suicident et des avocats s'inquiètent pour leurs clients dans le Républicain Lorrain. Midi Libre, sur son site, publie la vidéo tournée par une maîtresse d'école que la mère et la grand-mère d'un élève ont insulté, menacé de mort et puis frappé à Agde. À Tours, dans un tramway, c'est dans la Nouvelle République, 30 jeunes gens sont montés pour en tabasser d'autres. Parfois, dans le silence, on subit, mais on est beau. Dans le journal de Saône-et-Loire, voici à Chalon-sur-Saône Marcel, 91 ans, qui est une des deux dernières habitantes de son immeuble HLM dégradé, tagué aux portes arrachées, où des jeunes squattent pour fumer la chicha. Ils disent « Bonjour madame » à Marcel quand elles croisent leur groupe. Elle pique le charbon de leur narguilé. Le matin, dans son appartement qu'elle garde coquet, elle fait bouillir de l'eau pour le café, puis vérifie que l'ascenseur marche, sinon elle ne peut plus bouger. Est-on inquiet pour elle ou comme moi, souriez-vous ? On parle aussi de blocages en France, car notre pays n'est pas que de cris, il est aussi terre de procédures. Le journal de Saône-et-Loire encore, et le bien public, chacun sait chez soi, recense les projets enterrés par la faute d'un recours. On n'a pas ouvert de cinéma à Torcy, on n'a pas créé à La Roche-Pot un musée de voitures vintage pour protéger des oiseaux nicheurs. Il a fallu contourner les plaintes d'un riverain pour qu'une micro-crèche voie le jour à Marmagne. Les enfants sont mignons.
On parle des États-Unis dans la presse.
Et d'un homme puissant qui lui séduit plutôt que protester. Tim Cook, le patron d'Apple, dont le Wall Street Journal, traduit par l'opinion, raconte drôlement comment il a méthodiquement séduit Donald Trump, sa fille et son gendre, au mieux des intérêts de sa firme. Et Cook semble un maître politique. Il envoie des mails aux employés d'Apple pour les tenir au courant de ses discussions avec le diable. Au mieux des intérêts d'Apple, disais-je, 97% des employés votent démocrate. Les intelligences de M. Cook sont une respiration heureuse quand le Figaro, Le Monde Libération raconte, c'est le titre du Figaro, le grand fiasco américain fait de reculades et d'abandons en Syrie, en Irak où l'Iran s'impose et en Afghanistan. Mais dans le monde, loin de nos doutes et palinodies d'Occident, vous lirez avec précaution la certitude de l'enfer qu'a connu Wahal Al-Kateab, qui est une femme de Syrie libre et forte, devenue cinéaste par choix de liberté et qui était enfermée à Alep assiégée auprès de son mari Hamza Khatib, qui était le dernier médecin urgentiste de la ville martyre. Leur fille Sama, née sous le feu, était avec eux. Hamza pensait qu'il était préférable que nous mourions ensemble, dit la maman, plutôt que Sama soit orpheline. Wahal Al-Kateab a filmé cette vie. Son film sort demain, qui dit comment périt Alep Est. Mais elle dit aussi au monde, il n'y a pas plus bel acte de résistance que de rester vivant.
Et on parle de musique pour finir.
Qui est ce que nous pouvons offrir aux enfants heureux de notre pays? Et pourtant un dilemme français si bien raconté par le Figaro. Car nos excellents conservatoires ne savent pas comment réagir face à la montée des orchestres démos. Des projets sociaux à la base, on le remet à des enfants des quartiers pauvres, des instruments de musique pour les faire jouer, bientôt en concert, sans passer par le solfège. Et des mots sous les mômes jouent sous les youyou, parfois des parents, attirent la sympathie, les mécènes obtiennent même l'Opéra Royal de Versailles. Pendant ce temps-là, les conservatoires galèrent. Est-ce Mozart qu'on assassine ou bien que l'on invente? Notre pays est aussi plein de ressources. Il est ce pays, celui d'Eugène Saccomanno, qui aimait Giono, Céline, ses livres, et le football qu'il a assez bien dit sur Europe 1 et RTL, et que de la Provence à l'équipe, on célèbre comme le géant qu'il fait. Il est celui de Jean Chazal, notre pays que raconte la montagne, médecin retraité, convoyeur de bateaux de plaisance, qui cet été se diagnostiqua à 250 km des côtes une péritonite aiguë. Il se sentait fatigué, il savait qu'il allait mourir. Il a été sauvé par l'efficacité hors norme de nos secours en mer. Nous sommes le pays de Bernard Bouvet, 73 ans, dans West France, qui organise dans les écoles des envois de cartes postales pour sauver l'écriture manuelle. La France est aussi le pays de ces gens merveilleux que l'on baptise en Alsace d'un très beau nom, les veilleurs de la mémoire. Ils sont en une des DNA, une poignée de volontaires qui arpentent, surveillent et protègent les vieux cimetières juifs des campagnes que des enfants innocents souillent en allant y fumer ou que de méchantes âmes dégradent et profanent dans une région où fleurissent des graffitis antisémites. Mais la défaite n'est jamais certaine.